Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama avec aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque toute l'équipe est au complet dans le même studio, ce qui nous arrive que trop rarement. Bonjour Marine, c'est avec toi qu'on va commencer.
Et oui, bonjour à tous.
Parce que Marine, eh bien, on t'entend alors régulièrement, évidemment, quasiment toutes les émissions, mais tu es souvent eh bien, toute seule dans ton petit appartement parisien
à
faire tes chroniques.
Oui.
Et là, ça change tout. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, une émission exceptionnelle aussi parce qu'il y a deux interviews. La première qu'on écoutera, c'est celle que tu as faite, toi, Guillaume.
Oui, ce sera une interview de François Busnel à l'occasion de son documentaire « Seule la Terre est éternelle ».
Et puis moi, j'ai rencontré Cédric Clapiche et puis Muriel Robin pour le film « Encore ». Et quant à toi, Manu?
Ce sera Cyrano de Joe Wright.
Et puis Marine, pour ton arrivée dans ces studios.
C'est et un... bien moi, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle « Vedette » de Claudine Bory et Patrice Chagnard.
Mais nous commençons avec Cyrano. C'est toujours la même histoire du beau Christian qui déclare sa flamme à Roxane. Sauf que là, eh bien, Cyrano est joué par Peter Dinklage, le nain de Game of Thrones. Et Christian eh bien, est joué par un acteur noir.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est lui.
Cyrano?
Cyrano.
Ravi de vous rencontrer, Cyrano de Bergerac.
Vous êtes un monstre. Monstre.
Échec cinglant aux États-Unis, hein, cette transposition de la comédie musicale de Broadway créée par Erika Schmidt, hein, adaptation libre de la pièce d'Edmond Rostand, n'y va pas par quatre chemins et s'empare de la culture woke avec un aplomb aussi grotesque que réjouissant. Alors je vois déjà la tête des puristes faire la moue en découvrant un Christian noir, un Cyrano nain et toute une foule de personnages fantasmes sortis d'une gay pride. Joe Wright revisite un texte archi-connu en ne lisant pas sur l'énormité de la forme. Décors baroques et rococo, costumes flamboyants, photographies ultra-chiadées et caméras constantes en mouvement, sont au service d'une mise en scène très maniérée, ne se prenant pas toujours au sérieux dans ses excès en tout genre. Alors dans ses pires moments, Cyrano épouse les codes publicitaires les plus éculés, très loin on va dire du classicisme de la version de Jean-Paul Rapneau ou de celle de Michael Gordon, plus proche finalement du style clinquant d'un Baz Luhrmann sans l'hystérisation systématique du montage. Alors ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sinon rassurez-vous, l'histoire n'a pas changé. Cyrano est toujours amoureux de Roxane qui n'est, époque oblige, plus sa cousine. Il brille par son intelligence et sa sensibilité hors norme, persuadé que son apparence le prive à jamais de l'amour de celle qui lui est chère. Il ne se résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant aussi succomber au charme du beau Christian. Ce dernier, conscient de son manque d'esprit, demande à Cyrano d'écrire ses lettres d'amour à Roxane.
Ma seule raison d'être sur Terre est d'aimer Roxane.
Le sait-elle?
Le monde n'acceptera jamais quelqu'un comme moi avec une femme grande et belle.
Nous sommes démunis. Un bon mariage est votre seule option.
Je n'ai nul besoin d'aide. Je ne suis pas en détresse. L'amour ne signifie rien à vos yeux.
Les enfants ont besoin d'amour, les adultes d'argent.
J'ai un aveu à vous faire.
À moi?
Je suis amoureuse.
Il partage peut-être vos sentiments.
À vrai dire, je ne lui ai jamais parlé.
De votre amour?
De quoi que ce soit. Il s'appelle Christian. Christian Neuvillette. C'est une nouvelle recrue dans votre régiment. Devenez amis.
Il se peut qu'il me déplaise.
Dès que Roxane entonne la chansonnette, une sensation étrange s'installe. La musique paraît différente des habituelles comédies musicales. Pas de grandiloquence et des pattes dans la voix, juste des chansons efficaces portées par des arrangements subtils et des mélodies pop à la mélancolie familière. À ma grande surprise, cette adaptation me séduit, enfin surtout pour ça d'ailleurs, progressivement, grâce à la bande-son. Même les textes sont moins appuyés que d'habitude, se pliant certes au code du genre, mais avec un désir de ne pas trop en faire, de rester dans une intimité. Plus le film avance et plus je me dis que je connais ce chant, ces intonations. Et dès le générique final qui défile, le mystère se dévoile. La musique est signée par Bryce Dessner et Aaron Dessner, soit les membres de The National, et les textes co-signés par Matt Berninger, tête pensante du groupe, et Karine Besser. Rien que ça, et je comprends tout de suite ce qui m'a titillé l'oreille étant fan du groupe. En voici d'ailleurs un extrait.
Why can't I tell anybody the truth?
somebody desperate. I don't know what to do. You have no idea, do you? But I do. I just don't know what to say, 'cause I'm so, so afraid. That wasn't me, I don't know who that was. That was somebody desperate, someone in love. Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate, I'm somebody just like you.
Ne pas connaître les auteurs de la BO hein, pendant le film fut l'expérience la plus agréable de cet aimable divertissement, suffisamment bien fabriqué pour emporter l'adhésion. Pas de trahison, mais une relecture pop remarquablement interprétée par Peter Dinklage, nain de Game of Thrones, et Halle Bennett, la révélation de Swallow. Après le décevant La fille à sa fenêtre, l'inégal Joe Wright revient plutôt en forme avec cette jolie sucrerie, pleine de bons sentiments et non dénuée d'humour, même si le plaisir est finalement éphémère. Et puis je garde en tête que, hormis la musique, finalement, le film aurait été rapidement oubliable pour moi.
À vous d'en juger, et vous pouvez aller le voir dans les salles puisqu'il est sur les écrans depuis le 30 mars. Et si ça vous ne suffit pas, ce Cyrano, vous pouvez revenir à celui de Rapneau.
Ou celui plus ancien des années 50 de Michael Gordon, des années 40 même.
Un documentaire sur Jim Harrison, le romancier américain et son lien à la nature, c'est « Seule la Terre est éternelle » et c'est la première interview de cette émission.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Figure récurrente de la télévision qui sait lire et défenseur avisé de la littérature de tous bords, pourvu qu'elle soit bonne, François Busnel passe le cap du grand écran avec un documentaire autour de Jim Harrison. L'entreprise pourrait sembler être à première vue aisée. Hein. Son amour de l'auteur américain est bien connu et lui avait déjà consacré l'un des épisodes de son émission Carnet de route. Mais Jim Harrison est une personnalité plus complexe qu'un simple formatage induit par une grille de programme ne pouvait résumer. En plus d'être un personnage à part entière, hein, Harrison ne sait pas cantonner qu'à la littérature. Il est derrière le scénario de Vengeance hein, de Tony Scott, d'après sa nouvelle éponyme, et a écrit celui du très intéressant et quelque peu oublié aujourd'hui, Wolf de Mike Nichols, nouvelle version du mythe du loup-garou qui succédait au Dracula de Coppola, Frankenstein de Branagh et arrivé avant le Marie Rélie de Stephen Frears dans la grande course de relecture des monstres de la Universal et consorts des studios dans les années 90. Wolf reprenait la particularité de Frontières de l'Aube de Catherine Bigelow, à savoir ne pas nommer le film, dans le film la créature vedette. C'est un peu ce que fait Busnel dans Seule la Terre est éternelle, un peu film, un peu documentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Harrison ne sera pas livré d'un coup, mais qu'il faudra venir le chercher pour en saisir la vraie nature. D'un sage grizzly, hein, tout droit issu de Légendes d'automne, également adapté de son œuvre, on est invité dans son intimité et c'est par son quotidien et ses anecdotes personnelles que nous apprenons à mieux le connaître et non pas à travers une hagiographie ou un portrait classique. L'exercice est passionnant, mais peut-être va mettre de côté hein, tous ceux qui ne connaissent pas certaines subtilités du travail d'Harrison. Mais au fond, franchement, peu importe, tant l'auteur de Dalva se suffit à lui-même et permet de cerner d'une manière touchante l'acte de création, ce qui lui inspire ses sujets et, plus généralement et simplement, ben, la vie et la bonne nourriture remplaçant les drogues prises quelques décennies auparavant. Busnel s'autorise quelques apartés, hein, toutes connectées au fond hein, des textes et de la pensée d'Harrison, même si elles pourront sembler parfois un peu longue, comme celle qui concerne le sort des Indiens dans l'Ouest sauvage dont il aime tant démonter la légende. Jim Harrison nous semble enfin accessible, même si la simplicité pourrait passer à première vue pour de l'austérité ou tout simplement du je m'en foutisme, tant il n'est jamais dans la posture du célèbre écrivain qu'il pourrait revendiquer hein, à tout instant. Bien évidemment, ce long et passionnant travail fait autour de sa personne prend une autre dimension, ben forcément émouvante et même quelque peu mystique, vu sa philosophie de vie, en sachant qu'Harrison nous a quittés il y a déjà 5 ans. Pari gagné hein, donc pour François Busnel, de lier les mots à l'image et d'enfin leur donner la dimension que lui leur porte.
Et nous écoutons justement François Busnel, puisqu'il était à ton micro, Guillaume.
Landscape can take your sorrows away.
Ce que j'aime, c'est prendre le contre-pied de l'époque. C'est-à-dire que là où on va très vite en plan très serré et en clippant le montage, et ben je me suis dit on va prendre du temps, on va ralentir. Donc on va se mettre en scope, en 2.32, et on va faire des plans fixes, surtout. On va éviter ces travelling qui sont vraiment l'apanage maintenant de l'écriture télé, série et autres. On va prendre notre temps, on va faire des plans séquences. Moi, c'est ce que j'aime. Et on va cadrer très serré, en revanche, le visage du personnage, plus que de l'écrivain, du personnage qui nous raconte l'histoire. Parce que c'est vrai que moi, sur ce visage, sur cette trogne, depuis le départ, je voyais un paysage. C'est-à-dire que ces rides, pour moi, c'est des canyons. Les poches sous les yeux, des étangs ou des lacs. Sa barbe massacrée par la fumée de cigarettes, une forêt. Et je me suis dit, on a là ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire montrer que sur les visages d'un homme ou d'une femme, on voit des paysages, et que ces paysages n'existent que si nous, on les regarde. Et pour ça, à un moment, il ne faut plus avoir, vous voyez, une collection d'images, mais prendre le temps de s'arrêter. Et comme ce type-là nous raconte ça, prenez le temps, allez plus lentement, changez de vie en vous réensauvageant, en vous reconnectant au monde naturel, à sa sauvagerie, je me suis dit ça va bien ensemble les deux et on devrait réussir à faire quelque chose.
At first, I think I could be a writer,
cause... Non, il n'y avait pas de droit de regard. En fait, il y a une confiance, il y a une complicité. C'est-à-dire que je lui avais dit voilà ce que je veux faire et lui me dit fais ce que tu veux. Et il m'a simplement dit on fait. Le cinéma que t'aimes bien, il le connaît très bien. Hein. Wiseman, Klein, il connaît par cœur, et même Depardon. Mais il dit, par contre, on est d'accord, hein. On ne refait pas deux fois la même prise.
My mind casts on the wall.
Et il m'a simplement dit, on fait le cinéma que t'aimes bien, il le connaît très bien. Hein. Wiseman, Klein, il connaît par cœur, et même Depardon. Mais il dit, par contre, on est d'accord, hein. On ne refait pas deux fois la même prise. Je dis, ouais, ça me va, très bien. Mais par contre, on est d'accord, je t'emmène là où je veux aller, Jim. D'accord. Par contre, on est d'accord, tu ne me mets pas un coup de maquillage, je reste tel que je suis. Je dis, ok. Mais par contre, on est d'accord, Jim. On parle de tout. Je fais, ouais. Et en fait, très vite, quand je lui dis, je voudrais faire un film sur toi, ce qui était la toute première idée, mais je sentais bien que ça ne collait pas à ce que je raconte comme format. Donc, j'y croyais moyennement, et il me dit non. Je n'ai pas du tout envie qu'on fasse un portrait de moi. Il avait refusé d'ailleurs à tout le monde, il a continué de le refuser jusqu'à la fin de sa vie. Je le propose une première fois, une deuxième fois, il me redit non. Une troisième fois, il me dit décidément, t'as pas compris, il va faire un tour à la cave, t'as laissé des brumeuses, ça va les éclaircir. On remonte deux bouteilles. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu refuses un portrait sur toi? Je veux bien croire que c'est une mauvaise idée. Et il me fait cette réponse qui est quand même assez intéressante, qui me décale le film. Il dit, parce que, en fait, vous voulez tous faire des portraits sur la légende. Ça, c'est le travers journalistique. Il me dit, tu vois, t'es encore en train de retomber dans un travers journalistique. Alors déjà, première chose, t'as fait combien de films avec ton copain, là? Alors je lui dis, assez content, 5. Il me dit, eh ben, dis donc. Puis tu vas faire le 6e. Tu vas faire toute ta vie, tu vas faire des films pour la télé. Bah, bravo. Mais en même temps, c'est bien parce qu'il vous pousse à vous dépasser. Et je m'entends lui répondre, après qu'il m'ait dit pourquoi il ne voulait pas faire la légende, en me disant, regarde, prends Hemingway. Je me dis, bon, quel est le problème avec Hemingway, me dit-il. Voilà. Comme je sais ce qu'il va répondre, je lui réponds, je lui dis, ah oui, je sais, c'est qu'il est tout le temps bourré. Il me dit, mais non, crétin, ça c'est le premier problème. Quel est le deuxième problème avec Hemingway? On jouait beaucoup. Et il me dit, tu vois, le problème, c'est sa légende. Là, tu vas me faire la légende de Big Jim. J'en ai marre de ma légende, elle m'étouffe. Regarde Hemingway. La légende d'Hemingway pose un problème. Tout le monde en parle, personne ne le lit. Et là, je m'entends lui dire, effectivement, t'as raison, c'est idiot. Donc on va quand même faire un film, mais pas sur toi. On va le faire avec toi, sur la nature. C'est un peu Alexandre le Bienheureux. Mais c'est un peu aussi le cousin de Cyrano. Il y a un petit côté Cyrano dans les grands espaces. Vous savez, celui qui fait la tirade des noms merci. Et puis qui termine en disant rêver, rire, passer. Pour un rien, faire un verre, se battre, mettre son feutre de travers. Voilà, c'est ça, Jim Harrison.
That's about it.
C'était François Busnel, réalisateur de Seule la Terre est éternelle, en salle depuis le 23 mars. Un documentaire dans lequel on découvre que toute vache est unique. C'est Vedette, c'est toi Marine qui nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Salut Élise, c'est Claudine. On vient d'arriver.
C'est le printemps. Nous entrons dans un autre temps. Le temps des vaches.
T'as déjà une idée de laquelle va être elle? Oh, peut-être encore. Mais elle est vieille.
Alors, si vous en avez assez de Gotham City, de ses rues sombres, sordides, poisseux, des héros dépressifs aux cheveux gras, si vous en avez soupé des films bavards dans lesquels Christian Clavier éructe, si vous n'en pouvez plus de la violence au cinéma et des baffes de Will Smith, prenez donc un grand bol d'air frais avec Vedette de Claudine Bory et Patrice Chagnard, un documentaire vivifiant qui vous emmène en montagne au royaume des vaches.
Nous, on a du mal à comprendre cette importance des reines. D'où
mais
ça
écoute,
vient
d'abord, ça vient des vaches elles-mêmes. C'est une hiérarchie pour elles. Et chaque propriétaire en avait une.
Quoi ? Tu veux qu'on garde Vedette ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Lui parler ?
Vedette ! Vedette !
Pourquoi tu viens jamais quand je t'appelle ?
Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Moi, je pense qu'elles ont des sentiments.
Ici, point de crissement de pneus, peu de paroles d'ailleurs, seul résonne ou presque le tintement des cloches et pour cause, la vedette du film, eh bien c'est Vedette, justement. Vedette est ce que l'on appelle une reine, c'est la vache leaderuse du troupeau, une place durement gagnée à force de combats et une place remise en jeu chaque année lorsque les vaches s'affrontent. Mais cette année, eh bien Vedette affiche un méchant coup de vieux. Elle a 16 ans quand même, hein. Et donc 16 ans, c'est l'âge où en tant que vache, tu n'intéresses plus les éleveurs, en tant que femme, tu n'intéresses plus Roman Polanski. La fin d'une carrière, donc ce qui donne l'envie, la possibilité à ses propriétaires, deux éleveuses passionnées, d'évoquer sa vie et leur métier. Les interventions humaines resteront tout de même sporadiques, hein. C'est davantage le langage du corps de ces éleveuses, par ailleurs plutôt taiseuses, qui nous permet de comprendre la relation si particulière qu'elles entretiennent avec leurs vaches préférées. Et puis finalement, c'est surtout le langage des vaches que l'on entend, leur mugissement, ce qui confère à ce documentaire une capacité certaine à nous faire nous évader dans les alpages. Mais Vedette n'est pas un documentaire animalier. Le film raconte surtout comment deux êtres, en l'occurrence ici une vache et une femme, apprennent à s'apprivoiser mutuellement. Claudine Bory, la co-réalisatrice, était voisine de ses éleveuses et a décidé pendant plusieurs mois de s'en occuper avec l'aide de ses propriétaires et de surmonter donc, eh bien, l'appréhension qu'elle ressentait face à cette très imposante bête. Alors, il faut savoir qu'on est notamment sur une langue qui dépasse celle de la créature de Alien. C'est très impressionnant, on la voit plusieurs reprises dans le film. Et pour établir le contact avec Vedette, pour lui parler, eh bien Claudine Bory a une technique bien à elle. Elle lui lit, assise dans la grange, les grands philosophes Descartes, Kant, Hegel.
Non seulement les animaux n'existent que pour le bien de l'homme, mais de plus, ils ne ressentent rien. T'entends ça ? Ils ne ressentent rien. Voilà ce que dit Descartes. Les animaux ne sont que de simples machines, des automates. Ils ne ressentent ni plaisir, ni douleur, ni quoi que ce soit d'autre. Bien qu'ils puissent pousser des cris quand on les coupe avec un couteau, ou se contorsionner pour échapper au contact d'un fer chaud, cela ne signifie pas qu'ils ressentent de la douleur dans ces situations. Ils sont gouvernés par les mêmes principes qu'une horloge. Et si leurs actions sont plus complexes que celle d'une horloge, c'est parce que celle-ci est une machine construite par les humains, alors que les animaux sont des machines faites par Dieu.
Précision importante en revanche, les vaches détestent le courant existentialiste. Donc il ne faut surtout pas leur dire de Sartre, elles détestent ça. Plus sérieusement, le film est traversé par un antispécisme. Alors l'antispécisme étant l'idée selon laquelle toutes les espèces animales sont au même niveau, à égalité. C'est donc bien évidemment une doctrine qui refuse toute maltraitance animale. Le documentaire Vedette montre une vie dans laquelle animaux, humains et nature cohabitent, une idylle que l'on pourrait penser quasiment utopique à l'heure des désastres écologiques que l'on traverse. Le film soulève également une question de mise en scène peu commune. Comment filme-t-on une vache ? Si les plans en contre-plongée ne mettent pas en valeur les femmes, en tout cas c'est ce que dit la légende, eh bien sachez qu'en revanche, il sied fort bien au bovin. Patrice Chagnard a également choisi de la filmer en lumière naturelle, ce qui sublime le poil de la bête. Et Vedette offre de temps à autre à la caméra de très beaux retournés trois quarts, presque plus sexy que ceux de Anna de Armas dans le dernier James Bond. Patrice Chagnard, lui, restera toujours invisible derrière la caméra, contrairement à sa co-réalisatrice, car Vedette, eh bien, c'est une histoire de femmes et de femelles. Donc, puisque les personnages que nous voyons et que nous entendons à l'écran sont toutes de genre féminin, Claudine Bory et Patrice Chagnard, en optant pour un film lent, un peu long, c'est vrai, instaure une véritable poésie bovine, une échappée belle au cœur des Alpes, d'où on ressort avec l'envie de courir dans la nature et de ne plus jamais manger de côte de bœuf.
Le documentaire Vedette est en salle depuis le 30 mars de Corps. Il est aussi question dans le dernier film de Cédric Clapiche, un film sur un corps de danseuse blessée qui va renaître. Alors, métaphore à peine voilée de notre situation. Et c'est la deuxième interview de cette émission.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Clapiche fait partie de ces réalisateurs capables de faire l'unanimité en salle avec plus ou moins de réussite. Et pour son dernier long métrage, Encore, le réalisateur français a frappé un grand coup. Alors comme il le dira dans l'interview que nous avons pu faire, le sujet est un peu plus simple. C'est l'histoire d'une danseuse classique talentueuse qui se blesse et qui va se reconstruire. Voilà, ça s'arrête comme ça. Sa trajectoire alors n'est pas sans doute, mais grâce aux rencontres, notamment la danse contemporaine, eh bien, elle va parvenir à faire ce qu'elle aime plus que tout, c'est-à-dire danser. Face à ce canevas simple, eh bien c'est la mise en scène de Clapiche qui s'impose. Il décide de nous montrer la danse et des corps dansants. Et dans un long prologue qui dure quand même 12 minutes, Marion Barbeau, dont c'est le vrai métier de danser, eh bien danse, mais se blesse. Et à la fin du film, eh bien elle danse à nouveau, mais elle a changé d'univers et c'est de la danse contemporaine. Voilà le basculement. Clapiche ne filme pas ces deux moments de la même manière. Attentif au corps, il montre différents aspects de la danse et plus largement de la création. Ici, la danse est seulement souffrance quand on se blesse. Elle n'est pas comme dans Black Swan, par exemple, un anéantissement psychologique et puis la concurrence n'y est pas exacerbée du tout. Et c'est parce qu'il connaît la danse que Clapiche sait la filmer. Alors, dans Encore, le chorégraphe israélien Fechester, qui est aussi coproducteur du film, offre une vision de la danse contemporaine en donnant de la place à la singularité des corps. Et puis, bien, la figure de la danseuse Marion Barbeau, évidemment centrale, tout comme la place du corps, mais gravite également des personnages secondaires comme le kiné François Civil ou la bienfaitrice Muriel Robin, qui aime accueillir les artistes chez elle, faute d'être artiste elle-même. Eh bien, ça tombe bien pour notre danseuse éclopée, parce que c'est là-bas qu'elle fait non seulement de la cuisine, ça c'est quelque chose qui la répare, et c'est là-bas aussi qu'elle rencontre le chorégraphe israélien qui prépare son nouveau spectacle. Cela donne donc aussi ce film l'occasion à Clapiche de parler du travail, celui du corps en premier lieu et celui de la réparation avec notamment les séances de kinésithérapie et puis évidemment toutes ces répétitions et puis le moment où on essaie d'assouplir ses articulations et ainsi de suite. Alors qu'on aime ou pas la danse, Encore est un objet filmique réussi qui ne souffre d'aucune surcharge, d'aucune faute de rythme, un film intelligent, drôle et instructif sur ce milieu méconnu de la danse et dont le cinéma a pris parfois le pli d'en exagérer les tourments. On écoute Cédric Clapiche et Muriel Robin au micro de Cinérama.
Je voulais prendre le spectateur en otage et lui imposer de regarder de la danse. Certainement, ça doit faire peur à des gens en disant « voilà, ça va être chiant ». Il y a eu une espèce de point de convergence qui correspond d'une part avec la rencontre avec Ofe Schechter, c'était en 2018, donc ça fait 4 ans. Le fait que j'ai compris que c'était avec Marion Barbeau qu'il fallait faire ce film, parce que depuis longtemps je me dis, il faut qu'il y ait une héroïne, j'avais toujours quand même envie que ce soit une danseuse plutôt, qui porte le film, et donc qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit à la fois une danseuse de cette trempe-là, et puis en même temps qu'il puisse jouer, et donc c'était pas forcément facile de trouver ça. Danser, c'est une façon de ne pas être enfermé, en fait. D'exercer une liberté, d'ouvrir une fenêtre, de respirer. Donc, dans le film, il y avait cette idée quand même d'être blessé et d'aller vers une renaissance. Et en fait, je me suis dit que la danse allait parler de ça, quoi.
Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
Il y a beaucoup de préjugés autour de la danse. Donc il y a des préjugés sur la danse classique, où le préjugé beaucoup véhiculé par les Américains, c'est de dire que c'est une souffrance terrible et que c'est être à l'armée, la danse classique. Alors que quand vous voyez les danseurs classiques, ils rigolent beaucoup, ils ont beaucoup de plaisir à danser. Enfin, c'est quand même à la base du plaisir, quoi. Donc ça, c'était un préjugé. Il y a aussi le préjugé des gens très tournés vers eux-mêmes, alors que c'est des gens très collectifs, c'est des gens de troupe, donc c'est des gens qui sont habitués à vivre avec d'autres gens et à se comporter, parce qu'il y a aussi cette idée américaine de la compétition, toujours véhiculée par les mêmes films, donc là, moi j'ai essayé de montrer que la danse, c'est pas exactement comme ce que les gens pensent quand ils connaissent pas.
Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite.
était obligé d'avoir au moins deux vies.
Serena m'a proposé un job avec son mec.
Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher.
La dernière fois que j'ai fait un film avec une histoire simple, c'était Chacun cherche son chat, qui est résumé très vite, puisque c'est une fille qui perd son chat et qui le retrouve à la fin. Et donc l'histoire est totalement inintéressante. Et là, c'est une fille qui se blesse et puis qui va mieux après.
C'est vrai que ça donne envie de voir Chacun cherche son chat. Si on l'a pas vu, oh bah dis donc, je vais me jeter dessus ce soir. Mais pourvu qu'il est sur les plateformes.
Mais dans les deux cas, l'intérêt, c'est tout ce qui n'est pas le pitch en fait. C'est vraiment c'est la mise en scène, ouais. C'est ce dont on a parlé, les acteurs, les danseurs, le spectacle, la création d'images.
On est une compagnie de danse contemporaine.
Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que...
Quand ils bougent, tu veux dire quand
avec les...
Le corps. Quand ils bougent avec le
les
corps.
Bras.
Quand ils bougent avec le corps.
Les mouvements.
Oui, oui.
Quand ils dansent, quoi.
Attention.
Bah, j'aime infiniment cette Josiane, comment elle s'appelle,
Josiane,
oui, Josiane.
Ouais.
Oui, parce qu'elle dit les choses qu'on a envie d'entendre d'abord. Elle remet les choses bien à leur place, sur l'essentiel. On l'aime parce qu'elle a du cœur, parce qu'elle est positive. Et dans le film, tous les personnages sont positifs. Tous. Parce qu'elle ne met pas 50 ans, Élise, à se dire... on aurait pu la voir, avoir une partie un peu plus noire, un peu plus ou grise, en tout cas, où on la verrait se dire, mais non, mais moi, c'est de la danse classique que je voulais faire. Clac, elle dit, bah, allez, hop, bah, je vais faire de la cuisine, et puis on verra. Voilà. C'est faire et on verra après. Faire, on verra après. Et c'est une bonne école, ça.
Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est culture.
Ah, qu'est-ce que tu connais, toi?
J'aime beaucoup ce que dit Muriel dans la scène qu'on appelle Poire-Poire, où elle boit, elle mange, elle regarde des danseurs, elle entend de la musique et elle dit, voilà, il y a tous les sens qui sont remplis. Et effectivement, il y a quelque chose de très épicurien quoi, dans tout ça. J'aime bien, mais j'aime bien toutes les phrases que dit Muriel Robin dans le film.
Oui, il n'aime pas ce que je fais, mais il aime bien ce que je, ce que je dis. Voilà. Comme c'est lui qui a écrit, je vous laisse trouver la conclusion de tout ça. Mais il n'a pas pu couper parce qu'après, c'était trop, il fallait que le film sorte, il voulait me remplacer par, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était dans la boîte. Mais bon, il me dit quand même, comme les autres sont bien autour, ça fait la blague. Bon, moi je ne laisse pas. Hein. Je m'en fous qu'il aime pas, moi j'aime pas ses films.
C'était Cédric Clapiche et Muriel Robin à notre micro pour le film Encore en salle depuis le 30 mars. Pour terminer l'émission, un petit rattrapage sur un film qu'on n'a pas pu traiter encore, Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et Manu, tu en dis quelques mots seulement.
Oui, je vais essayer d'être synthétique, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, à mon avis, à dire de ce film. Hein, donc, d'un fait divers sordide, situé au début du siècle dernier, le récit d'un séminariste de 17 ans arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans, Vincent Leport en tire un très grand premier film dominé par l'impressionnante rigueur d'une mise en scène alors assez aride et épurée, qui n'est pas sans rappeler le cinéma de Robert Bresson. La filiation, aussi évidente soit-elle, n'empêche pas le jeune réalisateur d'avoir sa propre personnalité, dans ce qu'on pourrait appeler une étude de cas à travers le récit intérieur de Bruno Rédal. Ce jeune paysan lutta toute sa vie contre ses pulsions meurtrières et sa culpabilité. Alors un film que je trouve dérangeant et puissant, génialement interprété par les trois acteurs qui campent les personnages durant les différentes étapes de sa vie. Et puis qu'ajouter sinon que la lumière est magnifique dans ce film sur l'origine du mal, d'une grâce absolue que j'ai trouvé totalement hypnotique. Enfin, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. En fait, c'est-à-dire que le film aurait pu durer une heure de plus, une heure de moins, j'étais assez saisi par un film d'une très grande originalité.
Eh bien voilà, vous avez votre programme pour aller au cinéma.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie.
La semaine prochaine, Marine, tu ne seras pas physiquement avec nous, mais tu auras quand même vu deux films.
Oui, je vais même vous parler de deux films de genre, puisque je vais vous parler de Abuela, le nouveau film de Paco Plaza, et de Inexorable, le nouveau film de Fabrice Duvels.
Et puis toi, Manu, deux films, pareillement.
Bah, ce sera donc le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, un conte du hasard et autres fantaisies. Et puis je vais vous parler aussi d'Employé Patron.
Et puis toi, Guillaume, tu n'avais qu'un film, mais finalement, tu vas faire deux films aussi.
Eh bien, écoutez, pour se mettre bien au niveau des autres, oui, il y aura The Bad Guys, réalisé par un Français aux États-Unis, et Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano.
Et quant à moi, je vous parlerai de En même temps, le dernier film de Gustave Carverne et Benoît Delépine. À la semaine prochaine.